Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Barrère. Thibaut, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît?
Oui, donc je suis Thibaut Barrère. En une minute. Donc, je m'appelle Thibaut Barrère, je suis indépendant depuis 2005 sur tout un tas de sujets. Ça tourne autour quand même de l'ingénierie logicielle et de la qualité logicielle d'un côté, et sur le traitement de données et l'ETL et les pipelines de données en général de l'autre. Et donc, je travaille depuis 2005 sur des technos qui varient dans le temps. Il y a eu beaucoup de Ruby. Actuellement, je travaille aussi avec Elixir et Rust. Et en fait, j'utilise les outils pertinents. Et voilà, je fais tout ça en remote depuis la Charente-Maritime.
Excellent. Et justement, ce que je te propose, c'est qu'on fasse de notre épisode le thème. Quand tu m'as dit je suis un dev depuis 15 ans, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que quelqu'un qui est indépendant depuis 15 ans peut nous apporter comme recul sur sa carrière, sur ce qu'il a fait? Il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire indépendant. On est d'accord que ça veut dire freelance, c'est-à-dire à ton compte, tu es seul à travailler, tu t'occupes de ta rémunération
et le travail. On est deux parce que je suis aussi associé avec ma conjointe.
Ok.
Donc on a une structure dite familiale. Voilà pour l'essentiel. Donc effectivement, c'est une structure type SARL avec deux gérants non salariés dedans actuellement.
Ok. Et les deux produisent aujourd'hui ou il y a une répartition plus admin, prod ou...
Ça dépend suivant les périodes, mais oui, on pratique.
Ok, les deux produisent, ok, ça marche. Ah, tu vois, c'est un modèle que j'avais pas trop en tête et... Je connais quelqu'un qui fait un peu comme ça, en fait. Et du coup, c'est quoi les leçons que tu tires de 15 ans d'indépendance?
Il y en a plusieurs, tout un tas. Le premier, c'est que je fais quand même attention régulièrement à ce que j'appelle ménager mon enfant intérieur. J'ai commencé à coder quand j'étais petit, et donc par pur plaisir intellectuel et quasiment, enfin, pour pas d'argent du tout, hein, juste pour le plaisir. Et je trouve que pour moi, c'est important de régulièrement retourner à quelque chose qui est du pur plaisir, d'arriver à dégager des jours et des périodes où je peux être en mode curiosité pure. Et quelque part, on pourrait croire que c'est anti-business, mais au contraire, je trouve que c'est très business parce que c'est ça qui redonne des idées, de l'élan et de la longévité dans un métier qui est connu pour être parfois propice au burn-out ou choses comme ça.
C'est super intéressant. Comment tu fais ça concrètement?
Alors concrètement... On va mettre le doigt sur autre chose qui est la gestion des finances et des missions.
Eh bien oui, parce que pendant que tu fais ça, tu ne produis pas.
Voilà, exactement. Et donc, j'ai une gestion de faire, on va dire, sur l'aspect financier, à savoir déjà un suivi de trésorerie. J'avais carrément un outil de prévision de trésorerie à une époque en SaaS que j'avais lancé, que j'ai fermé récemment parce qu'il n'y avait pas assez de clients et le churn était trop important. Donc, il faut vraiment travailler l'aspect trésorerie, être conscient de ses charges sociales, être conscient du rythme, être conscient de travailler sur l'aspect business réellement de la structure, à savoir des réalisations comme comprendre que travailler pour avoir des contrats récurrents est plus intéressant que travailler pour des missions one-off, que ça permet de créer de la visibilité de chiffre d'affaires tous les ans et que du coup, ça permet de verser un salaire et de prévoir des périodes ou des années même où on va ralentir pour faire quelque chose qui est moins immédiatement rentable, comme il y a 5 ans, j'ai commencé à regarder le langage Elixir, qui était vraiment très très niche à l'époque, et maintenant qui se développe bien davantage sur certaines startups. Et donc au début, il n'y avait pas de retour financier, mais le fait d'avoir de la trésorerie m'a permis de dégager du temps en me disant « je sens bien ce truc-là, donc allons fouiller ».
Donc attends, je vais récapituler. Ce que tu dis, c'est... C'est important de faire plaisir, de se nourrir, de plaisir pur, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit sans aucune recherche à court terme de retour sur investissement, juste nourrir ce que tu appelles l'enfant intérieur. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Pour faire ça, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut pouvoir se le permettre, et pour pouvoir se le permettre, il faut être extrêmement rigoureux sur la trésorerie. C'est-à-dire, juste parce que tous les auditeurs ne sont pas indépendants ou au fait de ces choses-là, les flux de trésorerie, c'est vraiment l'argent qui rentre et qui sort. Ça paraît con à dire, mais c'est important, surtout dans une entreprise dans laquelle tu as des TNS, c'est-à-dire des travailleurs non salariés, où il faut savoir, cher auditeur, que tu rends des comptes à l'administration sur 2 ans. C'est-à-dire que les 1 euro que tu payes à l'instant T, tu as potentiellement des appels de charges sur 2 ans. Donc tu as des effets comme ça à rebours, si tu fais pas gaffe à ce que tu fais, qui peuvent te réserver de jolies petites surprises, quoi.
C'est tout à fait ça.
toi, tu as eu des mauvaises surprises ou tu avais quand même réussi à l'anticiper et à le voir venir, ces appels de charge?
J'anticipe énormément de choses, mais par exemple, là, je suis en train de migrer de caisse de retraite et ça a été, contrairement à ce que je pensais, rétroactif sur un an, et je me retrouve à sortir des sommes à quatre chiffres importantes qui vont finalement être étalées. Mais de façon générale, avoir de la trésor et réfléchir, c'est-à-dire que le point le plus important pour moi, c'est que si on aime bien coder dans son coin, il faut accepter de faire le boulot business, de structurer ses rentrées de façon intelligente, d'utiliser son cerveau qui est bon pour coder et qui peut donc être bon pour faire autre chose aussi, pour structurer la façon de générer des revenus, et structurer aussi d'avoir des missions qui vont plutôt vous apprendre quelque chose que plutôt du courant et de la commodité. Et si on fait ça, du coup, on peut se retrouver à dégager du temps relativement facilement, au moins certaines années.
Alors, comment tu fais ça concrètement? C'est quoi tes triggers? Tu te dis, quand j'ai atteint tel niveau de salaire, dès que j'ai stocké, j'ai mis assez de noisettes de côté comme les écureuils, là, j'ai de quoi passer une période. Comment ça marche? Comment tu planifies ça? Et comment concrètement tu fais pour dédier ce temps à ça? Parce que je t'avoue que personnellement, quand j'essaye de faire ça, le seul moyen que j'ai trouvé d'arriver à faire ce genre de choses, c'est de mettre une contrainte externe. Typiquement, je veux suivre une formation. Le seul moyen que j'ai d'être sûr que je vais vraiment la suivre, c'est pas juste de la mettre dans l'agenda, c'est de prendre une formation présentielle ailleurs, parce que là, je suis obligé de me déplacer physiquement. Mais sinon, je sais que mon emploi du temps, je me le saborde moi-même. J'ai tendance à facilement, j'avais prévu un truc pour moi ou s'il y a une actualité, une urgence, à venir grignoter sur ce temps-là, quoi. T'es pas sujet à ça, toi. Comment tu fais pour préserver ces temps-là?
Ça va être court en 10 minutes, mais on pourra en reparler à l'occasion. Déjà, j'ai un suivi de mon revenu dans l'année, c'est-à-dire que j'ai un objectif et je fais un document Google où j'ai combien je dois gagner tous les mois pour arriver à avoir ce que je veux à la fin de l'année. Et donc, ça me fait une courbe typique si je gagne à rythme régulier de ce que je devrais rentrer. Comme ça, je peux voir si je suis en avance ou en retard par rapport à ce que j'ai visé. Deuxième point, c'est de connaître aussi ses charges, parce que le revenu correspond à un salaire, mais il y a des charges sociales à calculer. Donc, ensuite, partant de là, on peut aussi essayer de viser à être en permanence légèrement au-dessus de 10%, par exemple, ce qui va créer un peu de cash tous les ans. Et ça, au lieu de chercher, entre guillemets, simplement à payer ses charges et c'est tout, et donc de se retrouver dans une situation où on n'accumule pas un minimum, chercher à améliorer un peu ses prestations, la valeur qu'on crée et sa capacité à négocier pour avoir tendance à avoir peut-être 10-15% de plus que ce qu'il nous faut et donc pour thésauriser un petit peu, avoir un matelas. Une fois qu'on a dit ça, après il y a l'aspect quand même disponibilité en jours dans un calendrier. Si on est sur des taux journaliers trop bas, malheureusement, ou qu'on a des charges trop hautes parce qu'on vit à Paris ou des choses comme ça, on va être embêté parce que le ratio ne va pas être bon. Donc, c'est important, si on veut sur la durée, de développer des taux journaliers assez importants, d'expertise, pour pouvoir avoir moins besoin de jours dans une année donnée pour le même résultat, ce qui, du coup, dégage des jours matériellement. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, après, c'est qu'il faut trouver l'énergie et l'organisation qui permet de faciliter l'innovation. Et ça peut être, selon les périodes, des sortes de hackathons où on va se donner 2-3 jours et on se les alloue et on dit je ne suis pas disponible pour les réunions. Mais en pratique, ça ne marche pas forcément super bien tout le temps. Il faut voir faut avoir l'énergie de pouvoir le faire. Il y a un deuxième mode opératoire qui consiste à avoir des prestations qui vont être un peu flexibles, c'est-à-dire qu'on peut les faire un petit peu quand on veut tant qu'on fait le budget dans le mois. Et ça, c'est pratique parce qu'on peut avoir un niveau d'énergie compatible ou pas avec l'innovation. Et une troisième petite astuce en 20 secondes, c'est de faire ce que j'appelle du time boxing, c'est-à-dire d'allouer un volant de temps que généralement je vais utiliser le matin, même 15 minutes. Par exemple, pour Elixir, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je faisais des petits exercices sous forme de test unitaire le matin, juste un quart d'heure, mais tous les matins. Comme ça, on a envie d'y retourner le lendemain matin. Et en plus, le matin, on est frais. Donc, ça permet de créer un petit momentum, comme on dit. Voilà.
C'est ta petite routine de démarrage qui, en plus, te maintient dans le mood et dans l'énergie, dans le plaisir pur, quoi, en fait. Ton petit quart d'heure de plaisir.
Exactement. Et en plus, l'intérêt, c'est que du coup, si on a une prestation qui est plus à un instant T, une prestation peut être plus rébarbative, c'est pas grave parce que dans la journée, ça s'équilibre et du coup, même la prestation rébarbative et peut-être moins rébarbative, justement, quand on a des choses un peu...
Oui, parce que c'est ce qui permet de financer le reste.
Voilà.
Une dernière question avant qu'on se dise au revoir. À partir de combien de visibilité, tu me parles de ce petit matelas que tu utilises pour consommer, pour te préparer une petite sécurité et pour permettre de financer des périodes où tu vas investir un peu plus. À partir de combien est-ce que tu t'autorises un peu de temps? Tu le fais vraiment au fil de l'eau, tu essayes de balancer, ou tu attends d'avoir, par exemple, 2-3 mois devant toi de salaire pour faire ce genre de choses? C'est quoi ton trigger psychologique qui te fait dire, là, je peux relâcher un peu et faire un peu plus d'innovation ou d'investissement sur la suite?
J'ai fait les deux. J'ai testé la méthode où je suis sur des prestats à 2/3 de mon temps et je garde 1/3 pour me reposer et faire l'innovation. Ou faire quelque chose où je coupe pendant... J'ai déjà coupé 6 ou 7 mois pour travailler sur un sujet. C'est assez variable et ça dépend même de ma situation familiale en fonction de l'âge des enfants. Là, j'ai 2 enfants qui ont 12 et 7 ans, mais quand ils étaient petits, j'étais plutôt sur un mode où je prenais des prestations régulières pour être sûr d'avoir quelque chose aussi. Maintenant, je suis sur des choses un peu plus ambitieuses et un peu plus, entre guillemets, dangereuses parce que je sais que j'ai plus d'énergie aussi que quand ils étaient plus petits. Donc c'est variable, faut adapter.
Ouais, c'est ça que je trouve top, c'est qu'en fait, le rythme, tu le fais complètement varier, c'est ça la beauté, moi, je trouve, de l'INDEP, c'est que tu peux vraiment adapter à ta situation de vie, en fait.
Oui, exactement. Donc c'est vraiment, j'applique Scrum, mais dans le bon sens d'origine, à savoir inspecter et adapter et prendre en compte le niveau d'énergie qu'on a et se fixer des objectifs, mais qui sont simples, hein, qui ne sont pas très compliqués non plus.
Merci Thibaut pour ton temps.
Je t'en prie, c'était un plaisir.
Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où?
Alors, il y a un blog qui est assez technique, thibautbarrère.com, et là-dessus, vous verrez différentes choses. Et j'ai aussi un compte Twitter, thibaut_barrère.
Ok, on mettra tout ça dans le lien de l'épisode. Merci Thibaut.
Merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, cher ami compagnon, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le faire savoir. Partage-le avec des amis. Tiens, si tu connais des potes qui sont indep ou qui ont envie de l'être, partage-le avec eux et discute-en avec eux, tiens. Derrière, tu passes un petit coup de fil et tu échanges sur tout ça. Moi, je suis super intéressé. Enfin, j'ai vraiment adoré. Merci Thibaut encore de cet épisode. C'était riche et ça fait écho à des choses que je vis. Et si tu réfléchis à l'indépendance, je trouve que c'est un très bon témoignage. Je te remercie, je te dis à demain.